Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 10 juillet 2020. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Les autorités burkinabées remettent en cause le rapport de Human Rights Watch sur les exactions à Djibour, dans le nord du pays. En République démocratique du Congo, les militants du parti présidentiel UDPS expriment leur mécontentement sur le choix du président de la CENI et demandent au chef de l'État de ne pas l'investir. Deux experts de l'ONU attendus en Chine pour préparer l'enquête sur l'origine du nouveau coronavirus. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Mali, des milliers de manifestants ont occupé les locaux de l'ORTM, la radio-télévision gouvernementale, et bloqué des ponts dans la capitale Bamako. C'est à l'occasion de la troisième manifestation à l'appel d'une coalition qui réclame le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. On fait le point sur place avec Kassim Traoré.
C'est au cours de leur troisième rassemblement que les responsables du M5-RFP ont décidé d'entrer dans la désobéissance civile. Devant des milliers de manifestants, les responsables de ce mouvement qui exige la démission du président Ibeka et de son régime ont pris le micro tour à tour pour expliquer les contours juridiques de la désobéissance civile avant de rentrer dans les 10 commandements qui ont été décortiqués par Mme Sikea Toussou. C'est Issa Kaoudjim, coordinateur de la CEMAS, au nom des responsables, qui a demandé aux manifestants d'aller occuper la primature, l'Assemblée nationale et l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Les manifestants, dès cette annonce, se sont divisés en 3 groupes. Et le premier groupe qui est arrivé sur place, c'était au niveau de l'ORTM, où les gardes ont baissé les bras. Ils ont occupé les bâtiments sans incident. Alors que du côté de l'Assemblée nationale et de la primature, il y a eu des échauffourées. Des coups de feu ont été entendus. Alors que les manifestants ont occupé le pont des martyrs et le pont Fade sans incident. Actuellement, l'ORTM, l'Assemblée nationale, plus les 2 points de Bamako sont occupés par les manifestants qui veulent rester jusqu'à 22h. Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le gouvernement a remis en question les conclusions d'un rapport de Human Rights Watch selon lequel les forces armées auraient procédé à des exécutions extrajudiciaires à Djibo, dans le nord du pays. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Les allégations de Human Rights Watch sont une lecture douteuse des efforts déployés par les forces de défense et de sécurité, a déclaré le gouvernement dans un communiqué soulignant son attachement aux droits de l'homme. Le porte-parole de l'exécutif, Rémi Dandjinou, a soutenu que les groupes armés cherchent à semer la confusion en organisant des attaques avec des uniformes et des équipements de l'armée volés lors des attaques contre les forces de défense. Selon le rapport de Human Rights Watch, les corps de 180 personnes ont été découverts dans des fosses communes autour de Djibo. D'après l'ONG de défense des droits de l'homme, les témoignages recueillis soupçonnent l'armée burkinabé d'être responsable de cette tuerie survenue entre novembre 2019 et juin 2020. Le département d'État américain a menacé de couper son assistance militaire au Burkina si les abus des forces de l'ordre se poursuivent.
Restons au Burkina Faso où le président Roch Marc Christian Kabore sera officiellement investi demain samedi, candidat de son parti pour briguer un nouveau mandat, la présidentielle de novembre. Il n'y aura pas de grand rassemblement en raison de l'épidémie de coronavirus, mais 3000 membres du mouvement du peuple pour le progrès se réuniront quand même au palais des sports de Ouagadougou. C'est le président Kabore que nous allons désigner pour être investi au titre de notre parti pour la prochaine présidentielle, explique Lassana Savadogo, le secrétaire exécutif du MPP. Le président nigérian Muhammadu Buhari a suspendu le directeur de la principale agence nationale anticorruption après des accusations de détournement de fonds. Sa suspension permettra à la commission d'enquête de poursuivre son travail selon les lois en vigueur, a expliqué le ministère de la Justice nigérian dans un communiqué. Ibrahim Magou, directeur de la commission des crimes économiques et financiers, est interrogé depuis lundi par un comité spécial d'enquête pour s'expliquer sur les accusations de détournement de biens saisis et d'insubordination. En République démocratique du Congo, l'heure est au bilan au lendemain des violences qui ont eu lieu hier lors de la marche de l'UDPS. Le parti du président Félix Tshisekedi a protesté à travers le pays contre la nomination par l'Assemblée nationale de nouveau président de la CENI. La police parle de 2 morts. Le point avec Eddy Issongo.
Le porte-parole de la police soutient que seuls 2 décès sont confirmés parmi les manifestants, l'un à Kinshasa et l'autre à Lubumbashi. Il ne précise pas s'ils ont reçu de balles. Selon le commissaire supérieur Pierrot Monamputu, la police a fait usage des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser les protestataires qui avaient bravé l'interdiction due à l'état d'urgence et aux mesures de Covid-19. L'officier précise que plusieurs manifestants ont été blessés et 7 par balle, mais à Lubumbashi. Une église a été vandalisée, les sièges de 2 partis mis à sac et incendiés, ainsi qu'un poste de police. 19 policiers ont été grièvement blessés. La police dément les décès d'un de ses agents, mais admet qu'il est entre la vie et la mort dans un hôpital pour avoir été copieusement molesté. Hier, le secrétaire général intérimaire de l'UDPS a parlé des 3 morts et appelé à la démission du ministre de l'Intérieur. Human Rights Watch dénonce les déploiements de l'armée dans certaines villes, condamne la violence des manifestants et exige une enquête. Lundi, la coalition Lamouka de l'opposition a aussi appelé à une autre marche pour la même raison.
La compagnie libyenne nationale de pétrole a annoncé ce vendredi la reprise de la production et des exportations de pétrole en Libye après environ 6 mois de blocage lié au conflit qui déchire le pays. La Libye, qui dispose des réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique, est déchirée par un long conflit entre pouvoirs rivaux avec le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et le maréchal Khalifa Haftar qui contrôle l'Est et une partie du Sud.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 555 000 morts dans le monde. Une équipe de l'OMS se rend en Chine pour préparer l'enquête sur l'origine du virus. Les précisions de John Lyndon.
Plus de 12 millions d'infections ont été diagnostiquées dans le monde, dont plus de 6 millions considérés comme guéris. Les États-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 133 000 décès pour un peu plus de 3 millions de contaminations. Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a jugé possible que l'état d'urgence qui expire le 31 juillet soit prolongé. Israël a enregistré un record de nouvelles infections avec environ 1450 cas ces dernières 24 heures. Hong Kong va de nouveau fermer ses écoles à partir de lundi après une résurgence des transmissions locales. En Sierra Leone, le président Julius Maada Bio a annoncé hier la réouverture des mosquées et des églises à partir de lundi. L'aéroport de Freetown sera ouvert aux vols commerciaux à partir du 22 juillet. Enfin, 2 experts de l'OMS sont attendus ce week-end à Pékin. Ils doivent préparer le terrain à une mission plus large qui devra déterminer l'origine du nouveau coronavirus.
La Banque mondiale a approuvé une aide de 200 millions de dollars pour permettre à l'Afghanistan de faire face aux pertes économiques dues à la pandémie de coronavirus, alors que plus de 34 000 cas ont été recensés dans la zone de conflit. L'économie du pays ravagée par la guerre a été sévèrement touchée par un confinement de plusieurs mois qui a entraîné la perte de milliers d'emplois. Ceci alors que les attaques des insurgés ont repris de plus belle ces dernières semaines. Le programme alimentaire mondial appelle à une réponse immédiate au Yémen où 10 millions de personnes souffrent de pénurie alimentaire aiguë. Le PAM affirme avoir besoin en urgence de près de 740 millions de dollars d'ici la fin de l'année pour faire face à la situation dans ce pays en guerre et en proie à la pire crise humanitaire au monde selon les Nations Unies. Plus des 2/3 de la population dépendent de l'aide humanitaire. La Chine rejette une nouvelle invitation des États-Unis à rejoindre les discussions américano-russes sur la réduction de leurs arsenaux nucléaires. Américains et Russes ont eu fin juin à Vienne des discussions pour tenter de prolonger le nouveau traité START. Cet accord bilatéral limite le nombre très important de leurs têtes nucléaires et expire en février 2021. Les États-Unis veulent inclure la Chine dans les négociations, estimant que sa capacité nucléaire est en rapide expansion. Pékin refuse, soulignant avoir un arsenal sans commune mesure avec les deux ex-rivaux de la guerre froide. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
Au Ghana, les producteurs de légumes demandent un soutien financier au gouvernement pour renforcer leur capacité dans la production, le stockage, la qualité phytosanitaire, la transformation et la commercialisation des produits. Selon le site Ghana Web, l'aide devrait aussi permettre à la filière de satisfaire la demande croissante du marché intérieur et de gagner en compétitivité dans la perspective du lancement de la zone de libre-échange continentale africaine. Les exportations de légumes au Ghana génèrent plus de 10 millions de dollars par an. Le Niger recevra 88,8 millions de dollars du FIDA pour renforcer la sécurité alimentaire, la gestion durable des ressources en eau et des terres pour lutter contre la désertification. Selon l'agence Ecofin, les fonds incluent un prêt de 64 millions de dollars et une aide d'environ 24 millions de dollars. Le projet devrait bénéficier à 210 000 ménages et permettra de renforcer des coopératives dans la production, le stockage, la transformation des produits périssables et l'alimentation. Terminons par la RDC, où Barrick Gold sera bientôt en mesure de retirer 500 millions de dollars du pays après des mois de pourparlers avec le gouvernement. La loi oblige les mineurs à rapatrier 60% des revenus de la vente de minéraux en RDC pour aider à développer son économie. Les 500 millions de dollars de Barrick représentent l'excédent après que la société a satisfait à cette exigence.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais hier, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a décidé d'arrêter définitivement tous ses championnats. Pourquoi cette décision? Le président de la fédération, Maître Augustin Senghor, explique.
Après avoir entendu le président de la commission médicale sur la situation et l'évolution de la pandémie au Sénégal, le comité exécutif a décidé de mettre purement et simplement un terme définitif aux différents championnats de la saison 2019-2020. Le comité exécutif a aussi décidé de ne pas décerner de titre pour la saison compte tenu du ratio de matchs disputés qui est au maximum de la moitié des journées de championnat. Ça, c'est pour la Ligue 1 et pour la Ligue 2. Et pour certaines divisions, nous n'avions même pas joué le tiers des compétitions de ces divisions. Donc, il nous paraissait difficile de décerner des titres sur des bases de ratio de matchs joués aussi faibles.
Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. L'attaquant ivoirien Salomon Kalou va rebondir à 34 ans à Botafogo, au Brésil. L'annonce a été faite par le club de Rio de Janeiro. Le joueur aux 97 sélections qui a disputé deux Coupes du Monde 2010 et 2014 avec les éléphants de Côte d'Ivoire s'est engagé jusqu'à fin 2021. Formé à l'ASEC Mimosa, célèbre pépinière ivoirienne de talent, Kalou a rejoint à 18 ans Feyenoord avant d'enrichir son palmarès lors de ses 6 saisons à Chelsea. Conclu en 2012 par une Ligue des Champions, il a ensuite joué 2 saisons à Lille en France et porté les couleurs du Hertha Berlin. Depuis 2014, le championnat de l'État de Rio de Janeiro est le premier à avoir repris au Brésil malgré le coronavirus. Le championnat national doit reprendre le 9 août. En Europe, on connaît désormais le programme des quarts de finale de la Ligue des Champions et le déroulé du tournoi final à 8 équipes prévu en août à Lisbonne. Le tirage au sort a été réalisé aujourd'hui au siège de l'UEFA à Nyon en Suisse. Les oppositions des quarts de finale auront lieu du 12 au 15 août à Lisbonne. À suivre, Atalanta Bergame Paris Saint-Germain. Le RB Leipzig fera face à l'Atlético Madrid. À suivre également, Real Madrid ou Manchester United face à Juventus Turin ou Lyon. Le FC Barcelone ou Naples croisera les crampons contre le Bayern Munich ou Chelsea. Les demi-finales se joueront les 18 et 19 août à Lisbonne. La finale se disputera le 23 août au stade de la Luz à Lisbonne au Portugal. Ici, en MLS, l'Impact Montréal, entraîné par Thierry Henry, a manqué son retour à la compétition la nuit dernière pour le tournoi organisé par la Ligue nord-américaine de football. En perdant face à New England Revolution 0-1, cette équipe prend la tête du groupe C, comprenant également Toronto FC et DC United, dont le match est prévu ce dimanche 12 juillet.
Merci à Pouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Pour la troisième fois, les militants du mouvement du 5 juin sont descendus dans les rues de Bamako par milliers pour protester contre le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le dernier discours du chef de l'État annonçant un démembrement de la Cour constitutionnelle n'a pas calmé les ardeurs de ses critiques. Reportage à Bamako, Kassim Traoré.
Pour ce troisième rassemblement, c'est le retour à la case du départ. Le M5 abandonne les points inscrits dans son mémorandum et demande la démission du président Ibeka. Selon l'étudiante Mariam Keïta, c'est le dernier discours du président qui est à la base de ces changements.
Donc il faut des solutions réellement qui vont réellement avec la situation actuelle. Il n'a pas de tout tenu un discours du numéro 1. Le numéro 1 d'un pays en crise, il n'a pas tenu un discours pareil. Vraiment, on est désolé.
Parmi les manifestants, les femmes et les jeunes sont les plus nombreux sur la place de l'indépendance. Ils ne veulent rien entendre que la démission du président Ibeka.
Nous sommes prêts à mourir, il faut qu'il dégage pour notre pays. On veut la paix, mais on ne peut pas avoir la paix sans qu'il dégage. S'il ne dégage pas, il n'y a rien qui peut s'arranger au Mali. C'est nous qui l'avons élu. Je l'ai élu, j'ai voté pour lui. Premier tour, deuxième tour, en 2013, à 386 km de mon village natal. Je suis allé voter première fois, deuxième fois, mais le monsieur nous a déçu. Donc on ne veut rien qu'il nous laisse, qu'il laisse notre pays, surtout. Il peut pas.
Dans la foule, il n'y a pas que des jeunes et des femmes. L'enseignant Ibrahim Maïga essaie de calmer l'ardeur de certains jeunes.
Chacun de nous essaie de mettre un peu de l'eau dans le verre, comme on dit. Donc, c'est nous qui construisons, donc on ne doit pas détruire. Donc, on essaie de se voir. Et puis, c'est que vraiment chacun de nous essaie de voir le point sur lequel on peut être d'accord. Que ce soit MC, la RFM, ainsi de suite. Le président, s'il avait accepté depuis au premier abord le mémorandum, je crois qu'on ne sera pas là.
Yaté Dougouré, un Malien de retour de l'aventure, pense que la solution passe obligatoirement par la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta.
On ne décharge pas à casser, on ne cherche pas à brûler, on ne cesse pas à manquer de respect. Tout ce qu'on lui demande, c'est le match qui dégage. Moi qui vous parle là, j'ai fait 35 ans d'aventure. 35 ans. J'ai décidé de venir chez moi. Ça fait 5 ans ou 10 ans que je suis là, mais ça ne va pas, il n'y a rien. Au moins, même le temps d'activité, ce qu'on gagne à manger, on sort par jour pour aller chercher notre propos de la journée manger. Mais maintenant, on ne trouve même pas. Je jure devant Dieu, on ne trouve même pas. Mais comment? Mais ça ne va pas. C'est tout ce qu'on lui demande. On ne veut rien qu'il laisse le pays. Quelqu'un d'autre va gérer. Problème de Noro, problème des Français, tout ça, c'est zéro. C'est comme nous, on veut, c'est à manger chez nous, dormir en paix. Mais notre pays, Mali, ça nous appartient, nous tous.
Selon les responsables du M5-RFP, leur mémorandum de sortie de crise du 30 juin est caduque. C'est pour cela qu'ils reviennent à leur exigence initiale, la démission du président Ibeka, la non-reconnaissance de l'autorité et du pouvoir du président malien, d'où le début de la désobéissance civile. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Le président ivoirien Alassane Ouattara a décrété 8 jours de deuil national à compter de ce vendredi suite au décès du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Aïcha Diarra s'est rendue à Korogo, la ville d'origine de l'ancien chef du gouvernement. Voici son reportage.
Pour la première fois de son histoire, la Côte d'Ivoire paie un premier ministre en exercice. À Korogo, la grande ville du Nord qu'il a vue naître le 10 février 1959, l'atmosphère est encore plus lourde. Les rues sont désertes. Monsieur Silwe Daouda est un habitant du quartier Soba à Korogo et Koulibaly Salimata.
Vraiment, nous sommes dépassés. Ce ne seront pas. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il ne faut que prier. Prier pour lui, puis ensuite, que Dieu vraiment nous sauve de ce trou. Je dis nous sauve de ce trou. Vraiment, nous sommes inquiets. Ça fait vraiment mal. Ça nous fait mal. Ça fait mal au cœur. On ne peut même pas parler. Les mots manquent. Quand quelque chose te blesse au cœur, tu n'as plus rien à dire. C'est de dire vraiment, vraiment, Dieu, que Dieu trouve la solution.
Ah, vraiment, c'est un grand choc pour nous. Vraiment, il était un père pour nous. C'était notre espoir. Vraiment, ah, j'étais abattu. Vraiment, ça a été un coup pour nous. Surtout le Nord. Vraiment, c'est très douloureux.
Selon Koulibaly Zié Mohamed, technicien en bâtiment, natif de Korogo, c'est une grande perte pour le pays.
Vraiment, pour le décès de notre lion, le Waraba, le Pelletrugo, vraiment, on est dépassé. Ça nous dépasse. Le Grand Nord qui paie et la région du Poro particulièrement. Vraiment, on ne sait pas ce que dit. Que dit même pour ajouter à ça? On est peiné.
Le deuil national qui a démarré aujourd'hui prendra fin le vendredi 17 juillet 2020 avec son inhumation à Korogo dans le caveau familial que lui-même avait fait faire pour l'inhumation de son père Gonkoulibaly ou Bombly. Pour l'heure, ce sont les hommages de la nation qui lui seront rendus à partir de ce 14 mai. Aïcha Diarra Abouaké pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Dans l'ouest du Cameroun, des centaines de mères célibataires ont manifesté cette semaine contre le mariage forcé. Ces femmes affirment que leurs parents les ont forcées à se marier précocement. Elles appellent les autorités à mettre fin à ces pratiques qui se terminent trop souvent par des séparations. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé. Et c'est un récit de Clermont-Ingibourg.
À 20 ans, Métombeb Aïcha est mère célibataire. Elle organise des manifestations contre le mariage forcé d'adolescents dans l'ouest du Cameroun. Dans la périphérie des villes de Foumbot et Foumbane, les parents forcent souvent les filles à se marier, estimant qu'une union après l'âge de 14 ans porte malheur. Aïcha se réjouit que les manifestations qu'elle a organisées ont poussé les autorités camerounaises à mettre un terme à cette pratique traditionnelle.
On nous force de se marier à 14 ans. Et quand on part en mariage, on arrive, on ne fait même pas un an, notre mari prend encore une deuxième femme. Nous sommes encore obligés de sortir. On ne peut même pas choisir un homme. C'est nos parents qui choisissent. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à rester.
Aïcha a créé le groupe des sœurs nonnes pour venir en aide aux mères célibataires qui sont divorcées et mettre fin à cette tradition pratiquée par les musulmans dans les villages. Les protestations ont éclaté lorsqu'une mère veuve de 17 ans a été forcée la semaine dernière d'épouser le frère de son mari décédé. Ce mariage a été annulé après les manifestations. Mais les autorités locales affirment qu'elles doivent protéger les pratiques culturelles, y compris les mariages précoces forcés. Ousmanou Mefirou, responsable de la chefferie locale de Foumbat.
Ici, dans le Loun, c'est les deux familles qui décident du mariage. Parce que quand l'homme a trouvé sa femme, il doit amener la femme chez ses parents. C'est les parents de l'homme qui doivent aller rencontrer les parents de la femme.
Mais au niveau du district, les autorités camerounaises se disent opposées au mariage précoce et forcé. Pour Julien Gaël Kono, le responsable du district de Foumbane, le gouvernement est déterminé à éradiquer ces traditions néfastes.
Au nom de la religion, pendant que le jeune garçon va à l'école, la jeune fille est à la maison parce qu'elle attend l'âge pour aller en mariage. Quand la jeune fille ne va pas à l'école, elle est réduite à faire le ménage. Pourtant, aujourd'hui également, la jeune fille doit travailler. Donc nous essayons de sensibiliser et nous essayons également de les réprimer.
Selon les données des autorités camerounaises, 6 filles sur 10 vivant dans ces communautés sont obligées de se marier avant l'âge de 16 ans. Mais dans 8 mariages forcés sur 10, les femmes finissent par quitter leur mari avant d'avoir 18 ans.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La Cour suprême des États-Unis a reconnu hier que la moitié de l'Oklahoma est une réserve amérindienne. Ainsi, elle a annulé la condamnation d'un Amérindien pour viol parce que le lieu du crime aurait dû être considéré comme hors de portée du droit pénal de l'Oklahoma. Julie Tabour de la VOA revient sur cette décision historique et c'est un récit de Lionel Gaïma.
La Cour suprême des États-Unis a jugé hier que les procureurs de l'Oklahoma n'ont pas le droit de poursuivre des affaires criminelles dans une grande partie de l'est de l'Oklahoma qui demeure une réserve amérindienne. Les juges ont statué 5 sur 4 en faveur de Jim C. Magird, qui a été reconnu coupable en 1997 par un tribunal d'Oklahoma d'avoir violé un enfant de 4 ans. La haute cour a estimé que le site du viol aurait dû être reconnu comme faisant partie d'une réserve de la nation amérindienne de Muscogee qui est en dehors de la juridiction de l'Oklahoma. La décision a annulé la peine de 1000 ans de prison de McGirt, mais il pourrait faire face à un nouveau procès devant un tribunal fédéral. Pour la première fois, une grande partie de l'est de l'Oklahoma est également considérée comme une réserve amérindienne avec plus de 1,8 million de personnes, dont environ 400 000 à Tulsa, la deuxième ville de l'Oklahoma. Robert J. Miller est professeur de droit à l'Université d'Arizona et membre de la tribu de Shawnee d'Oklahoma.
Au cours des 20 dernières années, les nations amérindiennes ont perdu la plupart de leurs procès devant la Cour suprême des États-Unis et nous en étions même arrivés à craindre de perdre nos affaires devant la Cour suprême.
L'impact de la décision judiciaire ne fait aucun doute. La tribu amérindienne de Creek vient de découvrir que les limites de sa réserve d'origine de 1832 sont toujours en place et que le Congrès ne les a jamais supprimées. Bien sûr, l'État de l'Oklahoma va réagir vigoureusement. Professeur Robert Miller.
L'Oklahoma a affirmé qu'il allait y avoir du chaos et que des milliers de détenus actuellement vont utiliser cette décision pour essayer de sortir de prison. La majorité de la Cour suprême a écarté cela. Ils ne pensent pas vraiment qu'il y ait autant de cas et nous verrons simplement ce qui se passe.
Le juge Gorsuch, qui s'est joint à ses collègues libéraux, a fait basculer la décision. Il a écrit « Nous ne pouvons pas deviner ses implications futures, mais nous ne pouvons certainement pas laisser la possibilité de changement futur nous empêcher de voir ce qu'est la loi aujourd'hui ». Fin de citation. Il y aura également des implications à long terme, prédit le professeur Robert Miller de l'Université de l'Arizona.
D'autres tribus de l'Oklahoma, y compris ma propre tribu, vont lire ce cas et vont se demander si les frontières d'origine sont toujours en place. Cela pourrait donc conduire à toutes sortes de négociations, voire à d'autres litiges à l'avenir.
Les Amérindiens qui vivent à l'intérieur de ces frontières devraient désormais être exemptés de certaines obligations de l'État, telles que le paiement des taxes, tandis que d'autres Amérindiens reconnus coupables par les tribunaux de l'Oklahoma pourraient être en mesure de contester leur condamnation pour des motifs de compétence.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Écoutez VO Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sous la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sous la chaîne 555 de Canal.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno. À la présentation, Abdourahmane Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Clédou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou.